immuable et remuant tout, jamais nouveau, jamais ancien, renouvelant tout et conduisant leur insu les superbes au dépérissement, toujours en action, toujours en repos, j'imagine, oui, amassant sans besoin, vous portez, remplissez et protégez, vous créez, nourrissez et perfectionnez, cherchant lorsque rien ne vous manque. Votre amour est sans passion, votre jalousie sans inquiétude, votre repentance sans douleur, votre colère sans trouble. Vos œuvres changent, vos conseils ne changent pas. Vous recouvrez ce que vous trouvez et n'avez jamais perdu. Jamais pauvre, vous aimez le gain, jamais avare et vous exigez des usures. On vous donne de surérogations pour vous rendre débiteur. Et qu'avons-nous qui ne soit vôtre? Vous rendez sans devoir, en payant vous donnez, ne perdez rien. Et qu'ai-je dit, mon Dieu, ma vie, mes délices saintes? Et que dit-on de vous en parlant de vous? Mais malheur à qui se tait de vous, car sa parole est muette. Donc, enfin, bref, Dieu, c'est une somme de paradoxes hein, dans la vision d'Augustin. Autre passage, au chapitre 5. Qui me donnera de me reposer en vous? Ça, c'est la question fondamentale de tous les anciens, c'est que le mouvement, c'est mal, et le repos, c'est bien. Et le but de l'existence, c'est de se reposer dans le souverain bien. Alors, qui me donnera de me reposer en vous? Qui vous fera descendre en mon cœur? Quand trouverai-je l'oubli de mes maux dans l'ivresse de votre présence, dans le charme de vos embrassements, ô mon seul bien? Que m'êtes-vous? Par pitié, déliez ma langue. Que vous suis-je moi-même pour que vous m'ordonniez de vous aimer, et si je désobéis, que votre colère s'allume contre moi et me menace de grandes misères? En est-ce donc une petite que de ne pas vous aimer? Ah, dites-moi, au nom de vos miséricordes, Seigneur mon Dieu, dites-moi ce que vous m'êtes. Dites à mon âme, je suis ton salut. Réponse, psaume 34. Parlez haut que j'entende. L'oreille de mon cœur est devant vous, Seigneur, ouvrez-la et dites à mon âme, je suis ton salut. Que je cours après cette voix et que je m'attache à vous. Ne me voilez pas votre face, que je meure pour la voir, que je meure pour vivre de sa vue. Alors, continue. La maison de mon âme est étroite pour vous recevoir, élargissez-la. Elle tombe en ruine, réparez-la. Ça et là, elle blesse vos yeux, je l'avoue et le sais, mais qui la balayera? À quel autre que vous crierai-je, purifiez-moi de mes secrètes souillures, Seigneur, et n'imputez pas celles d'autrui à votre serviteur. Psaume 18. Je crois, c'est pourquoi je parle, Seigneur, vous le savez. Psaume 115. Ne vous ai-je pas contre moi accusé mes crimes, ô mon Dieu, et n'avez-vous pas remis la malice de mon cœur. Psaume 31. Je n'entre point en jugement avec vous qui êtes la vérité. Job, etc. Et en fait, il répond en citant toute une série de. Le passage de l'Écriture sainte. Donc voilà, Augustin se demande pourquoi finalement Dieu s'intéresse à lui. Hein, et puis, du coup, ça l'impressionne que lui qui n'est rien puisse compter aux yeux de celui qui est tout. Mais vous voyez, c'est toujours très. C'est pour ça qu'Augustin aussi est un maître de vie spirituelle, non? C'est parce qu'il prend conscience de ça. Mais aussi, il va essayer de connaître Dieu. Et n'oublions pas qu'il avait une vision de Dieu manichéenne au début, une vision platonicienne, donc toujours transcendante, etc. Donc il est, voilà, il s'est déjà questionné sur qui est Dieu. Et là, par exemple, dans le livre 7e, au chapitre 10, il découvre que Dieu est la lumière immuable. Alors, paragraphe 16. « Ainsi, averti de revenir à moi, j'entrais dans le plus secret de mon âme, aidé de votre secours. J'entrais, et j'aperçus de l'œil intérieur, si faible qu'il fût, au-dessus de cet œil intérieur, au-dessus de mon intelligence, la lumière immuable. Non cette lumière évidente au regard charnel, non pas une autre de même nature, dardant d'un plus vaste foyer de plus vifs rayons et remplissant l'espace de sa grandeur, ça serait la vision des manichéens, Cette lumière était d'un ordre tout différent. Elle n'était point au-dessus de mon esprit, ainsi que l'huile est au-dessus de l'eau, et le ciel au-dessus de la terre. Elle m'était supérieure comme hauteur de mon être. Je lui étais inférieur comme son ouvrage. Vous voyez, là, il a introduit l'idée de création chrétienne. Qui connaît la vérité voit cette lumière, et qui voit cette lumière connaît l'éternité. L'amour est l'œil qui la voit. Ô éternelle vérité, ô vraie charité, ô chère éternité. Alors en latin, c'est ô eterna veritas, ô vera caritas, ô cara eternitas. Vous voyez, donc ça fait un cercle. Alors en français, ça marche moins bien. Donc, ô éternelle vérité, ô vraie charité, ô chère éternité, vous êtes mon Dieu. Après vous, je soupire jour et nuit. Et dès que je pus vous découvrir, vous m'avez soulevé pour me faire voir qu'il me restait infiniment à voir et que je n'avais pas encore les yeux pour voir. Et vous éblouissiez ma faible vue de votre vive et pénétrante clarté, et je frissonnais d'amour et d'horreur. Et je me trouvais bien loin de vous, aux régions souterraines où j'entendais à peine votre voix descendue d'en haut. Je suis la nourriture des forts, crois et tu me mangeras, et je ne passerai pas dans ta substance comme les aliments de ta chair, c'est toi qui passeras dans la mienne. Vous voyez, c'est magnifique. Hein? Et j'appris alors que vous éprouviez l'homme à cause de son iniquité, et qu'ainsi vous aviez fait sécher mon âme comme l'araignée. Oui, traduction ancienne du psaume 38. 38. Et je disais, n'est-ce donc rien que la vérité, parce qu'elle ne s'étend à mes yeux ni dans l'espace fini, ni dans l'infini? Et vous m'avez crié de loin, erreur, je suis celui qui est. Exode 3. Et j'ai entendu comme on entend dans le cœur, et je n'avais plus aucun sujet de douter, et juste douter plutôt de ma vie que de l'existence de la vérité, où atteint le regard de l'intelligence à travers les créatures visibles. Alors voilà un bel exemple de Augustin dans sa recherche de Dieu. Alors après, il parle aussi de sa conversion. Hein. On redescend un petit peu dans, je vous en avais déjà lu des passages dans sa biographie. Alors par exemple, les psaumes, le rôle des psaumes dans sa vie, dans le mouvement de sa conversion. Voilà, quels élans, mon Dieu, m'emportaient vers vous en lisant les psaumes de David, cantiques fidèles, hymnes de piété qui bannissent l'esprit d'orgueil. Novice à l'amour pur, je partageais les loisirs de ma retraite avec Alipius, catéchumène comme moi, il deviendra évêque aussi, et avec ma mère qui ne pouvait me quitter, femme ayant la foi d'un homme, et avec le calme de l'âge, la charité d'une mère, la piété d'une chrétienne. De quels élans m'emportaient vers vous ces psaumes, et de quelle flamme ils me consumaient pour vous. Et je brûlais de les chanter à toute la terre, s'il était possible, pour anéantir l'orgueil du genre humain. Et ne se chante-t-il pas par toute la terre, et qui peut se dérober à votre chaleur? Quelle violente et douloureuse indignation m'exaltait contre les manichéens, et quelle commisération m'inspirait leur ignorance de ces mystères, de ces divins remèdes, et le délire de leur fureur, contre l'antidote qui leur eût rendu la raison. J'eusse voulu qu'ils se fussent trouvés là, près de moi, et m'écoutant à mon insu, observant et ma face et ma voix, quand je lisais le psaume 4e, et ce que ce psaume faisait de moi. Je vous ai invoqué, vous m'avez répondu, entendu, Dieu de ma justice. J'étais dans la tribulation et vous m'avez dilaté. Ayez pitié de moi, Seigneur, exaucez ma prière. Que n'est-il là, m'écoutant, mais à mon insu, pour qu'ils n'eussent pas lieu de croire que ce fut à eux que s'adressaient tous les traits dont j'entrecoupais ces paroles. Et puis, j'eusse autrement parlé, me sentant écouté et vu, et quand j'eusse parlé de même, ils n'eussent pas accueilli ma parole comme elle partait en moi et pour moi, sous vos yeux, de la tendre familiarité du cœur. Alors, vous voyez, bon. Alors, il continue, montrant comment il est transporté par ces psaumes. Alors, on comprend qu'en fait, les psaumes le convainquent de péché et qu'en même temps, ils le poussent à espérer en la miséricorde. Et que précisément, c'est ce qu'il a fait. Par exemple. Voilà. Bon, je vais pas plus loin. Normalement, vous les avez, ces feuilles, hein, je les ai déjà données. J'en fais un autre tirage pour ceux qui ne les ont pas. Alors, après, il y a des passages amusants, toujours dans le livre 9e, là, au moment de sa conversion, où il continue de progresser dans la découverte de Dieu et puis dans le désir de le suivre. Vous savez qu'il avait fait donc, il s'était retiré pendant les vacances pour faire une sorte de retraite. Hein. Et voilà, au chapitre 5, paragraphe 13, il dit: Les vacances étant écoulées, je fis savoir aux citoyens de Milan qu'ils eussent à chercher pour leurs enfants un autre vendeur de paroles. Parce que j'avais résolu de me consacrer à votre service, une poitrine souffrante et une respiration gênée m'interdisant d'ailleurs l'exercice de ma profession. Alors, je trouve que la formule est quand même très très bonne. Hein. Les vacances s'étant écoulées, je fais savoir aux citoyens de Milan qu'ils eussent à chercher pour leurs enfants un autre vendeur de paroles. Un autre recteur. Ouais.
Oui, on en a beaucoup.
Alors c'est Confession 9, 5, 13.
Page 5.
C'est page 4 du...
5.
Oh, peut-être 5, oui. Oui, c'est ça, peut-être, parce que moi, je n'ai peut-être pas la même numérotation. Là. Mais en tout cas, vous avez la...
Je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de références au texte biblique. Est-ce que dans la version que j'ai Trabuco, les notes sont à la fin?
Alors, je ne sais plus si elles sont à la fin.
Elles ne sont pas en bas de page.
Elles ne sont pas en bas de page, mais elles ne sont pas entre parenthèses dans la... Ah, parce que si elles sont en fin, de toute manière, je ne me souviens plus la version de Trabuco, pourtant c'est celle que j'ai lue, mais je ne me souviens plus si les notes sont en fin de chapitre, parce que sinon, il doit y avoir des colonnes de citations bibliques, parce que, je vous dis, toutes les lignes, une citation biblique, hein, ou toutes les trois lignes. Donc, voilà. Vous avez parlé de ça, du baptême, ça je l'avais lu. Vous avez parlé aussi de ce qu'on appelait l'extase d'hostie avec Sainte Monique. Après la mort de Sainte Monique, ça. Aussi ces flots de larmes. Alors, dans le livre 10e, donc on rentre un peu plutôt dans des réflexions moins comment dire, moins autobiographiques et plus rationnelles. Je vous relis le chapitre 6 du livre 10e, au moins les paragraphes 8 et suivants. Justement parce que on a derrière tout l'arrière-plan platonicien, mais dépassé de saint Augustin. Alors, voilà, ça commence par ceci. Ce que je sais de toute certitude de la conscience, Seigneur, c'est que je vous aime. Alors, pourquoi il l'aime? Parce que d'abord il l'a recherché, hein, il avait le sentiment de vouloir trouver Dieu. Et ensuite, il a découvert que Dieu lui faisait miséricorde de tous ses péchés. Et donc, vous vous souvenez, la parole évangélique de Jésus qui dit aux pharisiens, en disant, voilà, à l'un on a remis 100, à l'autre on remet 10. Qui l'aimera plus? Ben, celui à qui on a le plus remis. Et là, Augustin a le sentiment qu'on lui a tout remis. Donc, oui, voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle finalement il aime le Seigneur, c'est que non seulement il est bon, il est beau en soi, mais qu'il est bon pour nous. Alors, ce que je sais de toute certitude de la conscience, Seigneur, c'est que je vous aime. Vous avez percé mon cœur de votre parole, et à l'instant je vous aimais. Le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent ne me disent-ils pas aussi de toutes parts qu'il faut que je vous aime? Et il ne cesse de le dire aux hommes, afin qu'ils demeurent sans excuse. Hein, Romains 1, 20. Mais le langage de votre miséricorde est plus intérieur en celui dont vous daignez avoir pitié et à qui il vous plaît de faire grâce. Autrement, le ciel et la terre racontent vos louanges à des sourds. C'est un peu vrai, hein, quand Saint Jean-Paul II parle de l'autre livre de la Révélation qui est celui de la nature, parfois il n'est effectivement pas vraiment ouvert et lu tant qu'on n'a pas fait l'expérience à un moment ou à un autre d'être touché par Dieu. C'est bien ce que dit Augustin ici. Qu'aimais-je donc en vous aimant? Ce n'est point la beauté selon l'étendue, ni la gloire selon le temps, ni l'éclat de cette lumière amie à nos yeux, ni les douces mélodies du chant, ni la suave odorance des fleurs et des parfums, ni la manne, ni le miel, ni les délices de la volupté. Ce n'est pas là ce que j'aime en aimant mon Dieu. Et pourtant, j'aime une lumière, une mélodie, une odeur, un aliment, une volupté en aimant mon Dieu. Cette lumière, cette mélodie, cette odeur, cet aliment, cette volupté suivant l'homme intérieur. Lumière, harmonie, senteur, saveur, amour de l'âme, qui défie les limites de l'étendue et les mesures du temps et le souffle des vents et la dent de la faim et le dégoût de la jouissance. Voilà ce que j'aime en aimant mon Dieu. Donc vous voyez, c'est la transposition dans le domaine immatériel des réalités bonnes perçues au niveau matériel. On n'en nie le caractère fini, on le réaffirme au niveau infini. C'est le système dialectique de la, on pourrait dire de l'apophatisme. Alors, de l'analogie, en tout cas, de l'analogie de l'être. Et qu'est-ce enfin? J'ai interrogé la terre et elle m'a dit, ce n'est pas moi. Et tout ce, alors, c'est intéressant parce que pour les panthéistes, la terre, c'est Dieu. Hein. Donc, qu'est-ce enfin? J'ai interrogé la terre, elle m'a dit, ce n'est pas moi. Et tout ce qu'elle porte m'a fait le même aveu. J'ai interrogé la mer et les abîmes, et les êtres animés qui glissent sous les eaux, ils ont répondu, nous ne sommes pas ton Dieu, cherche au-dessus de nous. J'ai interrogé les vents, et l'air avec ses habitants m'a dit de toutes parts, Anaximène se trompe, je ne suis pas Dieu. Parce que normalement, l'air c'est là où habitent tous les dieux. J'interroge le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, ils me répondent, nous ne sommes pas le Dieu que tu cherches. Or, pour les anciens, les astres sont tous divins. Et je dis enfin à tous les objets qui se pressent aux portes de mes sens, parlez-moi de mon Dieu, puisque vous ne l'êtes pas. Dites-moi de lui quelque chose. Et il me crie d'une voix éclatante, c'est lui qui nous a fait. La voix seule de mon désir interrogeait les créatures, et leur seule beauté était leur réponse. Et je me retournais vers moi-même, et je me suis dit, et toi, qu'es-tu ? Et j'ai répondu, homme. Et deux êtres sont sous mon obéissance, l'un extérieur, le corps, l'autre en moi est caché, l'âme. Auquel devais-je plutôt demander mon Dieu vainement cherché à travers le voile de mon corps, depuis la terre jusqu'au ciel, aussi loin que je puisse lancer en émissaire les rayons de mes yeux. Comme joliment dit. Il valait mieux consulter l'être intérieur, car tous les envoyés des corps s'adressaient au tribunal de ce juge secret des réponses du ciel et de la terre et des créatures qui s'écriaient « Nous ne sommes pas Dieu », mais son ouvrage. L'homme intérieur se sert de l'autre comme instrument de sa connaissance externe. Moi, cet homme intérieur, moi, esprit, j'ai cette connaissance par le sens corporel. J'ai demandé mon Dieu à l'univers et il m'a répondu « Je ne suis pas Dieu, je suis son œuvre ». Mais l'univers n'offre-t-il pas même apparence à quiconque jouit de l'intégrité de ses sens? Pourquoi donc ne tient-il pas à tous le même langage? Animaux, grands et petits, le voient, sans pouvoir l'interroger, en l'absence d'une raison maîtresse qui préside au rapport des sens. Les hommes ont ce pouvoir que les grandeurs invisibles de Dieu soient aperçues par l'intelligence de ses ouvrages. Mais ils cèdent à l'amour des créatures, et devenus leurs esclaves, ils ne peuvent plus être leurs juges. Et elles ne répondent qu'à ceux qui les interrogent comme juges, et ce n'est point que leur langage, ou plutôt leur nature varie, si l'un ne fait que voir, si l'autre, en voyant, interroge. Mais dans leur apparente constance, muette pour celui-ci, elles parlent à celui-là, ou plutôt elles parlent à tous, mais elles ne sont entendues que des hommes qui confrontent cette disposition sensible avec le témoignage intérieur de la vérité. Ce que je vous ai dit sur la grâce tout à l'heure, vous l'avez ici, hein, dans cette quelques lignes. Car la vérité me dit, ton Dieu n'est ni le ciel, ni la terre, ni tout autre corps. Et leur nature même dit aux yeux, toute grandeur corporelle est moindre en sa partie qu'en son tout. Et tu es supérieur à tout cela. C'est à toi que je parle, ô mon âme, puisque tu donnes à ton corps cette vie végétative que nul corps ne donne à un autre. Mais ton Dieu est la vie même de la vie. Donc voyez, l'idée d'Augustin, c'est qu'il ne nie pas qu'on puisse accéder à Dieu par les sens, puisqu'on n'a pas d'autre, l'âme n'a pas d'autre moyen de connaître que par les sens. Mais elle met en garde, justement, les sens, disons, la tendance qu'on aurait à réduire le connu à ce qui est purement sensible. Donc il y a tout un travail de négation du sensible pour ensuite reposer de manière hypothétique, en quelque sorte, la réalité recherchée au niveau spirituel. Hein? Mais il ne dira pas que la connaissance des sens, c'est une connaissance qui aboutit qu'à des choses qui ne sont pas Dieu, et qu'on a une connaissance qui serait purement directement par l'âme, qui serait la position platonicienne. Donc vous voyez comment il est déjà, il est en somme aristotélicien, sans bien que fondamentalement on sent que le platonisme c'est sa patrie, mais il sait très bien qu'il n'y a pas d'autre connaissance de l'âme sinon par les sens, ce que dira, démontrera saint Thomas d'Aquin plus tard. C'est pour ça que saint Thomas d'Aquin est fondamentalement augustinien, hein, c'est très clair. Et voyez comment la foi d'Augustin l'empêche de tomber dans l'erreur philosophique platonicienne à laquelle il était si bien apparié, hein, si on peut dire. Non, finalement, c'est l'incarnation, hein, c'est pas l'incarnation, c'est par le Christ qu'on connaît le Dieu incorporel, donc c'est par les sens qu'on connaît Dieu, finalement.